Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Entrevue de Star Trek pour les nuls, le podcast, toujours sur les ondes de puissance maximale. Dans les entrevues, vous le savez, nous revenons sur la noobitude des intervenants de ce podcast et aujourd'hui pour m'accompagner, JP, comment vas-tu ?
Ah, ça va très bien mon cher.
Ah, super. Et moi je suis Rémi et vous écoutez Star Trek pour les nuls. Star Trek pour les nuls. Alors JP, comment as-tu découvert Star Trek?
Aussi bien dire que je suis né dedans. Écoute, ça a commencé, mon parrain avait les VHS du Club Columbia. Il m'en avait fait des copies sur cassette bêta. À l'époque, on parle fin années 80, début années 90. Là. Et en parallèle, donc j'avais l'épisode de Next Generation. En anglais, on parle de première et deuxième saison en anglais, alors que je comprenais encore que dalle dans cette langue-là. Et j'avais les films en français. Je me rappelle que le premier film que j'avais vu, c'était Star Trek 4. En fait, je les ai vus comme un peu à l'envers. J'ai vu le 4, le 3, je pense le premier, puis le 2. En tout cas, ça a été un peu dans le désordre. Donc, ça a été un peu spécial quand j'ai grandi. Ça a vraiment cultivé mon imaginaire. Mais j'avais pas comme un... On s'entend, j'avais quoi, entre 5-6 ans quand j'ai commencé. Puis c'est resté avec mon enfance. J'avais des jouets, j'avais l'Enterprise D en métal de Galoob. J'avais les figurines de Galoob aussi. Plus tard, j'ai eu les figurines de Playmates. Donc, j'ai vraiment grandi avec Star Trek sans trop savoir exactement c'était quoi, dû à la barrière de langue. Mm-hmm. Et donc... Ça a été un peu spécial. j'ai un point de vue assez spécial.
Ouais, parce que même dans
ma jeunesse, par rapport à ça.
Dès l'âge de 6 ans, 6-7 ans, c'est...
Ouais, c'est ça. Dans ma très tendre enfance. Donc.
C'est vrai qu'il y a des trucs que tu ne devais pas bien comprendre.
Ouais, on s'entend, j'ai regardé ça surtout pour les effets spéciaux à l'époque, là, à cet âge-là, quand tu ne comprends pas l'anglais.
Oui. La première fois que j'ai regardé Dune, j'ai rien compris, mais je trouvais ça génial qu'ils aient des espèces de boucliers très, très bizarres. Ouais. Qu'est-ce que. Du coup, en fait, donc, pour les effets spéciaux quand tu étais enfant, et tu t'es accroché parce que voilà, t'aimais les vaisseaux spatiaux et tous ces concepts.
En fait, ce qui est arrivé plus tard, j'ai commencé à lire, j'ai lu quelques romans de Star Trek, et avec l'âge, j'ai commencé à comprendre l'anglais, donc j'ai commencé à pouvoir comprendre de plus en plus ce qui se passait à l'écran, jusqu'à ma jeune adolescence, là, où ce que, en même temps, j'ai en parallèle, mon père, justement, tu parlais de Dune, mon père m'a fait lire Dune, j'avais quelque chose comme 13-14 ans. Ensuite, je passais du Isaac Asimov, puis à Arthur C. Clarke. Mm-hmm. Donc, avant de me replonger dans Star Trek, dans mon adolescence, un peu plus tard, j'ai eu une vague de science-fiction classique en tant que telle, au niveau de la lecture. Et après ça, ce qui est arrivé, c'est que j'ai rejoint le Mythique Club de Star Trek Québec. Donc, ce n'était pas un fan club en tant que tel, c'était un jeu de rôle par courriel. Ah. Et j'ai rejoint ça alors que je n'avais aucune idée de ce que c'était qu'un jeu de rôle. je commençais à peine à maîtriser les courriels. J'avais, 16 ans, je pense, en secondaire 5, genre. Et on s'entend, à cette époque-là, j'étais encore un jeune homme très réservé, j'avais pas beaucoup d'amis, et c'est Star Trek. C'est au travers de ce club-là que j'ai développé mon côté social, et j'en suis encore reconnaissant ce jour, parce que la grande majorité des amitiés que j'ai présentement ont été au travers de ce club ou ont été possibles grâce à l'existence de ce regroupement. Parce que, oui, ça se passait par courriel, mais à chaque année, il y avait des activités qui s'organisaient et j'ai pu découvrir que j'étais pas seul. Parce qu'on s'entend, à cette époque-là, on parle de 1999-2000.
Ouais. Il n'y avait pas tous les forums, tous les...
C'est ça. Et surtout que le geek n'était pas encore chic. Aussi développé, aussi cool, aussi chic, en effet. Surtout dans la région où je suis, justement, je suis la région de Québec. C'est une ville de fonctionnaires. Moi, je suis encore plus, je suis dans la banlieue de Québec, donc il n'y a vraiment pas grand-chose qui se passe. Tout ce qui était geek se passait à Montréal, à 300 km de là. Donc, c'est ça, je me sentais tout seul. Et justement, c'est ce groupe-là qui m'a aidé à me faire sentir un peu moins seul, malgré la distance.
Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler de Castelnau Barbarins dans le Gers?
Non!
Parce que mon premier voisin était à plus d'un kilomètre.
Ok.
Je vois personnellement totalement ce que tu veux dire. C'est la difficulté parfois de le sentiment de solitude.
Mais non, comme je te dis, je suis éternellement reconnaissant et ça a permis de poursuivre mon chemin. Là, c'est ça.
Ok. Du coup, en fait, ton intégration de la communauté Star Trek, entre guillemets, c'est faite via ce club. Rappelle-moi le nom, club Star Trek Montréal?
C'est Star Trek Québec.
Québec, pardon.
Simplement. Étonnamment, il y avait beaucoup de Français. dans le groupe Star Trek Québec. D'ailleurs, je tiens à saluer mon ami Bastien Retureau. Je crois, est sur Paris. Je crois qu'il est originaire de Lille. On se parle encore très souvent. Et un fidèle auditeur de Star Trek pour les nuls.
Oh, merci. C'est génial. Mais qui ne deviendra pas un fidèle auditeur de notre émission? À quel moment est-ce que tu penses considérer que tu es passé de noob de Star Trek à connaisseur? Est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure du temps? Bon, je suppose que quand tu avais 6-7 ans, tu ne te considérais pas comme un connaisseur de Star Trek.
Non.
Enfin, surtout maintenant, avec ton regard. Mais est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure du temps, en approfondissant les connaissances, ou il y a eu un moment?
Oui, oui, oui. C'est sûr que ça s'est fait, premièrement, au travers de mon évolution dans Star Trek Québec, parce que je pensais que je connaissais Star Trek à l'époque, et je n'avais vu que, principalement, Next Generation et un peu de Star Trek Voyager. Parce qu'on s'entend que Deep Space Nine était encore un petit peu difficile. Il n'était pas disponible en français à l'époque. C'est quand même plus complexe. Donc, c'est au travers de Star Trek Québec, j'ai réalisé qu'il y avait plus de profondeur à Star Trek que je pensais. Et j'ai vu justement là. Parce que moi, j'ai une tendance à vouloir aller chercher la source. Quand j'apprends quelque chose, je veux aller voir comme la source. Donc, je me rappelle quand j'avais... Je dirais que le moment, je dirais pas que je suis devenu un expert, mais je suis devenu un vrai trekkie. C'est quand j'ai commencé à regarder Deep Space Nine. Je me rappelle, il y avait mon ami Rémi qui m'avait prêté ses VHS qu'il avait enregistrés à la télé à l'époque.
Les Rémi sont tellement formidables.
Ah oui. Et je dirais qu'à partir de ce moment-là, j'ai accroché, j'ai commencé vraiment à devenir tricky parce que j'ai commencé à vouloir vraiment comprendre et ça s'est développé. J'ai voulu comprendre l'univers en tant que tel et plus tard, j'ai commencé à découvrir l'aspect en dehors de l'univers, les producteurs, la production... Ça a été très organique comme évolution, là, mais ça a vraiment commencé quand j'ai commencé à regarder Deep Space Nine au début des années 2000.
C'est chouette. Comment ça fonctionnait, ce jeu de rôle? C'est vous envoyez des mails, tu jouais
Ouais.
un personnage?
Oui, exactement. On avait chacun un personnage, on avait un historique. Il y avait plusieurs modes de jeu. Principalement, il y en avait deux. Il y avait le style libre, où ce qu'on pouvait, c'était simplement comme on écrivait ce qu'on voulait. C'était généralement là où on faisait le plus de développement de personnage, parce que c'était comme généralement entre deux missions, là. Et il y avait les missions en tant que telles, où ce que là, ça. Il y avait un maître de jeu, il faisait un chapitre, et ensuite on posait des questions, il y avait le capitaine qui donnait une décision, ensuite il y avait la suite. Donc ça durait quelques semaines. Donc c'est relativement simple, mais c'était ça. Ce n'était pas comme certains pouvaient connaître là, sur le forum. C'est vraiment, ça fonctionnait avec des Yahoo groupes, c'est le bon vieux courriel.
D'accord. Non, mais c'est vachement intéressant parce qu'au final, bon, moi en 2000, j'avais à peine 10 ans, donc je ne connaissais pas les mails. Enfin, on en envoyait de temps en temps et c'était tout un événement quand c'est arrivé. Et je me
Ah
demande en
ouais.
fait comment on peut faire tout un JDR là-dessus, sur ce support. Mais bon, voilà. Est-ce que et en quoi? J'aime beaucoup la formulation de mes questions. Est-ce que et en quoi Star Trek t'a influencé dans ta vie quotidienne? Est-ce que ça a influencé tes études, tes décisions dans la vie personnelle, professionnelle?
Je peux simplement dire oui à tout, dans le sens que mes premières études, je les ai faites en infographie. Et c'est simplement parce qu'à l'époque, je ne savais pas trop en quoi je vais m'en aller. Il y avait quelqu'un dans le club de Star Trek Québec qui avait fait ses études dans ça. Donc, j'ai dit, bon, ben, je vais faire pareil. J'étais moyennement bon là-dedans, mais je me rappelle que les premiers graphiques en vecteur que j'ai dessinés à l'époque, c'était des logos de Star Trek et principalement aussi des interfaces graphiques Elcars de Star Trek, là, de Michael Okuda. Et plus tard, quand j'ai quitté cette carrière-là, plusieurs années plus tard, c'est un autre ami de Star Trek Québec qui m'a référé chez CGI, où j'ai commencé ma carrière en informatique, où je suis maintenant diplômé et certifié Microsoft.
D'accord.
Donc, oui, je dois tout. Je dois tout. À savoir, est-ce que j'aurais eu ces opportunités-là quand même? Je ne suis pas certain. C'est sûr que. Mais, en tout cas, les contacts et les opportunités qui m'ont été présentées au niveau professionnel ont été grâce à Star Trek Québec, à
D'accord.
Star Trek en tant que tel aussi.
Oui, après, c'est sûr qu'on ne sait jamais ce qui se serait passé si on
C'est
n'avait
ça.
pas. Enfin voilà, si t'avais ouvert la porte B au lieu d'ouvrir la porte A, tu sais pas.
Et voilà.
C'est bien, t'aurais fini. Astronaute. Ou éboueur. Ce qui est tout à fait. Ça, ouais,
Ben oui,
c'est
il en
mal dit
faut.
ça. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui t'a décidé à lancer cette émission magnifique qui est Parlons Trek?
Oh, j'étais dans une période un peu creuse dans ma vie.
T'avais
Je
eu.
revenais de.
Vas-y,
Oui.
je poserai
Ben,
cette question plus tard.
bon, comment dire, j'étais en train de, je revenais d'une dépression. J'ai eu certains échecs au niveau de ma vie personnelle. Je travaillais et j'étudiais en même temps, donc j'avais pas de vie sociale et j'avais besoin de quelque chose pour justement me redonner un petit aspect social. Donc, il y a mon ami Andrew qui gère justement Puissance Maximale qui m'a dit, ben, justement, je cherche des podcasteurs. Puis je dis, bon, ben, podcast sur Star Trek. Il y avait Discovery qui avait été annoncé quelques mois auparavant. Et je me suis dit, bon, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui aime. Comment dire, faire ce que tout le monde fait. Et j'ai remarqué que malgré le fait qu'il y a beaucoup de podcasts de Star Trek, il y en a très peu ou sinon pas qui existent en français.
Non.
Et donc j'ai décidé, ben, pourquoi pas Donc, j'ai lancé un appel et encore là, il y a deux de mes anciens, deux de Star Trek Québec qui ont décidé de répondre à l'appel. Donc, Dom et Marc, principalement. Pierre aussi, c'est vrai, Pierre est Trek, c'est vraiment une gang d'anciens de Star Trek Québec. En fait, je dis anciens, mais il y a Dom qui est devenu le président de Star Trek Québec. Ça existe encore, ça tourne encore.
D'accord.
C'est ça. Donc, c'était vraiment pour me donner quelque chose à... une raison de socialiser, là, et non pas... quand j'étais dans une période creuse de ma vie, c'est vraiment... je suis heureux. Maintenant, je suis content.
C'est chouette pour le développement personnel, je trouve. Parce que moi, j'ai découvert ça il y a... je sais pas, on a commencé quoi, il y a 2 mois. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant de... Ça, je sais pas l'expliquer non plus. Oui, c'est vrai que je comprends tout à fait ton point de vue d'être heureux. Avant, parlons Trek, t'avais eu d'autres gros projets comme ça
J'ai justement, ce qui m'avait amené à la dépression, c'est que j'avais fait de la gestion de convention.
D'accord.
Et c'était, disons que c'était un petit peu trop pour moi. Un petit peu trop ingrat comme travail, surtout quand tu fais ça de façon amateur. Disons que c'est simplement que les résultats n'équivalaient pas à l'effort mis. C'est un peu dommage, tandis que justement, quand je fais du podcast, je peux simplement juste être moi-même et si je. Moi, honnêtement, je m'en fous de combien de gens qui écoutent. C'est quelque chose que je fais pour moi, et uniquement pour moi, et je suis content qu'il y ait des gens qui embarquent quand même. Et c'est ça. Donc, c'est simple comme ça.
C'est tout à ton honneur. C'est super. On avait dit qu'on... on n'en parlerait pas, mais vu que c'est sorti hier ou avant-hier, on a vu le nouveau trailer de la prochaine saison de Discovery. Quels sont tes espoirs en fait pour l'avenir de Star Trek en entier, pas que pour Discovery, hein.
C'est sûr que un peu d'unité. La division est de moins en moins présente là, au travers du fandom. Elle est encore présente. Je sais pas, j'aime me torturer en allant sur les réseaux sociaux.
Ouais, t'es un peu fou, je te vois intervenir des fois.
Ouais, surtout sur Twitter. Comment dire ça? Donc, je dirais un peu d'unité, parce que moi, je suis assez grand, je suis assez réaliste pour savoir que les années 90 ne reviendront pas. Peu importe l'époque où les séries se passent, l'époque de production, elle, continue d'avancer. Et comme je disais, Star Trek va toujours être une réflexion de l'époque où la série a été produite. Et je peux juste souhaiter que les gens puissent comprendre ce simple fait-là.
C'est très compliqué. Surtout que, oui, vraiment... Enfin, je me suis intéressé, moi, à Star Trek relativement récemment par rapport à vous tous. Mais je trouve que depuis l'annonce de Discovery, on vit vraiment une rupture totale parmi les fans. Moi, je suis assez pessimiste, en fait. Tout le monde...
Ouais, mais je dirais que ce qui a vraiment déclenché ça, c'est la poursuite là, en justice au niveau de Axanar. La chose étant que les gens qui... si les gens se seraient donné la peine de lire pourquoi cette production-là s'est faite poursuivre, ils comprendraient pourquoi elle s'est faite poursuivre. Mais les gens ont décidé de voir ça comme une attaque sur le fandom. Et ça crée une ligne dans le sable à partir de ce moment-là. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que le fandom a commencé à se diviser, là, même avant Discovery. Là.
D'accord. J'ai pas trop suivi, moi. Enfin, je J'ai même pas vu le film d'ailleurs, donc je sais pas trop.
Bon, c'est correct, tu manques pas grand chose.
D'accord.
Mais ça, c'est mon avis personnel, on s'entend.
Ben d'ailleurs,
il y a mon casse. Ouais.
Oui. Non, non, mais j'étais juste en train de dire d'ailleurs, même de manière générale, au niveau fanfiction et fandom, je suis pas trop à jour. J'ai réussi à me procurer le film Renegade, mais je l'ai pas encore regardé.
Ouais.
Je sais pas trop. Je sais pas ce que ça vaudra de manière générale.
Ça, okay. Je te laisserai le voir à ton rythme.
Oui. Il se situe à quel moment par rapport aux autres films?
Alors, c'est après Nemesis. Là. C'est vraiment une suite en tant que telle.
C'est vraiment du vieux.
Mais enfin, ce qui est arrivé avec eux, ce qui est intéressant, c'est que eux, suite à cette poursuite-là, ont décidé d'enlever tous les éléments Star Trek et d'être comme une marque générique là, par rapport à... Mais ça, c'était pour les épisodes ultérieurs. Le premier reste Star Trek Renegades, mais les autres qui ont été produits par la suite sont sans marque.
OK. En effet, Marc n'est pas là aujourd'hui.
Mm-hmm.
Bon. le petit vide. Écoute, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais aborder avec nous, avec moi?
Mon Dieu, le fait est que simplement, je suis reconnaissant. Premièrement, j'ai parlé de tous les gens que j'ai connus grâce à Star Trek Québec, mais je peux parler aussi de tous les gens que j'ai connus grâce à Parlons Trek, notamment toi et toute ta jolie bande. Je parlais de Twitter. Il y a un certain côté de moi qui est maso d'aller sur Twitter, mais j'ai aussi une très bonne communauté d'amis. Je pense que je peux appeler des amis maintenant sur Twitter. Je pense aussi aux gens j'en parle tout le jour, mais Ticonderoga, c'est pour moi le plus bel endroit au monde. Avec des gens fantastiques. J'ai connu justement celle qui s'occupe des événements au Original Series 7 Tour, Mary Beth. Elle parle un joli petit français pour une Américaine. Elle m'avait invité chez elle l'été dernier, chez son copain en Ontario, au Canada. Et j'espère que ça va aller dans la continuité en tant que telle, parce que la semaine prochaine, je vais à Las Vegas. Encore là, j'en parle depuis des mois, mais justement, je vais pouvoir voir plein de gens que j'ai connus en ligne et je suis très optimiste par rapport à ça. Et si je me fie à mes expériences passées de gens connus au travers de Star Trek, ça ne peut qu'aller que très bien.
Oui, il faut pas... Enfin, si on peut généraliser la communauté Star Trek, c'est quand même individuellement de chouettes personnes dans la plupart des cas.
dans la plupart des cas. Parce que justement, je suis curieux. Là. Maintenant, tu sais, on parlait de communauté divisée. Je suis vraiment curieux de voir maintenant. Ben, ça va être la première fois que je veux vraiment. Parce qu'à Ticonderoga, la dernière fois que j'ai été l'été dernier. Non, j'ai été cet été, mais il n'y avait pas énormément de gens. C'est un petit événement avec des auteurs. Mais la dernière convention de Star Trek, en fait, c'est même la première convention de Star Trek que j'ai été dans cette ville-là. Discovery n'était pas encore lancé, mais tu sais, je ne sentais pas de haine, je ne sentais pas d'antagonisme par rapport à la série. Parce qu'il y avait déjà quand même eu certains previews. Et là, je suis vraiment curieux de voir justement à la Mecque. Fan de Star Trek dans un même bâtiment, je suis curieux de voir là, si on va sentir cette fameuse division où c'est vraiment ce qu'on pense, ou si c'est dans le sens que c'est vraiment une minorité très vocale qui joue les vierges offensives.
Je sais plus si on avait parlé dans la toute première émission pilote tous les deux. Tu m'avais dit ça, que tu pensais que c'était une minorité à grande gueule. Et au début, je n'y croyais pas trop, mais en fait, c'est vrai que plus j'y réfléchis, plus je me rends compte que oui, il y a énormément de de bashing sur Discovery et tout, enfin tout ce qui se crée actuellement, mais en fait peut-être que ce sont souvent les mêmes noms qui reviennent ouais, plus je m'y intéresse, plus je me rends compte qu'en fait oui, c'est une minorité à grande bouche. On verra.
On pourra confirmer ça plus tard.
Oui. Seule l'histoire parlera. On dirait la philosophie de comptoir. Bah écoute, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur ta personnalité que tu voulais aborder
Non, ben moi avec, je pense que c'est ça.
Vas-y.
Non, vas-y.
En fait, avec Byron et avec Dragor, très rapidement, on a la discussion a dérivé sur une série en particulier. Byron aime énormément Voyager, il le disait le début. Mm-hmm. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose, une partie dans Star Trek qui te touche plus personnellement, plus qui te plaît?
Avant Discovery, j'aurais dit Deep Space Nine. C'est sûr que présentement, je vis dans le présent, je vis dans le Discovery. Mais il y a aussi un certain... je me vois un peu dans le personnage de Michael au travers dans l'arc de la première saison. C'est sûr que je n'ai pas tué personne, on s'entend, mais dans le sens de vivre un grand échec et apprendre à prendre le dessus et se refaire une famille... Mm-hmm. C'est un peu ce que j'ai vécu au cours des dernières années. Je me reconnais beaucoup au travers de ce cheminement-là. Et ça m'a affecté quand même beaucoup plus que ce que je pensais. Et il y a une chose aussi qui est très importante pour moi et que je ne l'avais pas réalisé tant que je ne l'avais pas vu. C'était la représentation. Je suis gay. Et de voir Stamets et Culber s'embrasser et être un couple normal... dans un univers dans lequel je vivais déjà à l'intérieur de moi, ça m'a affecté tellement, beaucoup plus que je pensais.
Ouais.
Et parce que moi, on s'entend, ici au Québec, on n'a pas de gros problèmes de discrimination. On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas dans...
Même en France.
Hein. Le mariage homosexuel est reconnu depuis plus de 10 ans maintenant. Mais en même temps, justement, c'est que justement, je vivais dans ce monde-là, je me disais, ah, c'est correct. Mais en même temps, de me voir dans l'écran, ça a été quelque chose d'un peu magique. Là. Et là, mon casque d'écoute vient de mourir. Donc, donne-moi 2 instants, je vais mettre mes écouteurs de backup.
Vas-y.
Hello, un instant, ouais, oui, je t'entends.
Je crois qu'on n'a pas pu faire une seule émission sans problème, sans problème technique. C'est génial.
Parce que j'ai eu le temps de finir ma phrase, là.
Oui, tu peux continuer. On a entendu la fin de ta phrase. C'est ça, l'esprit Star Trek. C'est aller contre vents et marées cosmiques, avancer malgré les problèmes techniques. Non, tout ce que je voulais dire par rapport à ce que tu viens de nous dire sur Discovery et sur ta personnalité, je trouve que c'est tout à ton honneur, parce que sans te lancer de fleurs, ni à toi, ni à nos deux podcasts, je trouve que tu es une très bonne personne, et que oui, c'est bien. J'espère que oui, que tu te relèves, et que tu seras plus fort et plus grand que jamais. Voilà.
Ouais.
Je pense qu'on a un peu éclairé ta personnalité auprès de nos auditeurs qui ne te connaissaient pas encore.
Et ceux qui veulent me connaître, il y a 50 quelques épisodes de Parlons Trek. Vous allez pouvoir découvrir le développement de Discovery au fur et à mesure.
Voilà, sur Parlons Trek, on peut te retrouver sur Twitter.
Oui, à Parlons Trek. Twitter.
Twitter.
Et j'ai maintenant un Instagram.
Oh, oh, mais tu mets quoi comme photo dessus?
Je sais pas encore, mais probablement que je vais m'en servir pour quand je serai à Vegas.
Ouais, bonne idée. Le Twitter, il y a une page Facebook aussi de Parlons Trek.
Ben oui, il y a la page Facebook de Parlons Trek. Vous allez voir tous vos nouveaux épisodes de Star Trek pour les nuls.
Oui. Ben, très chers auditeurs, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter ce qui a été dit, à nous donner vos avis sur cette émission. On a créé les hashtags NoobTrek et NulTrek qui sont extrêmement utilisés. J'ai plus de 200 notifications par jour à peu près. Non, je déconne. Depuis le début de l'émission, ça fait 3 mois, pas une seule utilisation du hashtag NoobTrek ou NulTrek. Donc lâchez-vous, allez-y dessus. N'hésitez pas à balancer des messages.
J'ai l'impression que la communauté francophone est peut-être plus Facebook que Twitter.
Oui, totalement. Mais c'est pas grave, on va y venir. On a mis du temps, tu sais, on a mis beaucoup de temps en France à quitter Messenger pour venir sur Facebook.
Mm.
Donc, ça va venir.
Mais tu sais, moi, à l'époque de Star Trek Québec, là, c'était ICQ. Tu n'as vraiment jamais connu ça.
Si, j'ai eu un compte ICQ.
Oh mon Dieu.
Ben, quand je me suis inscrit sur Messenger, j'étais en Angleterre. Alors ça, c'est la petite anecdote du jour. J'étais en colonie de vacances.
Si vous voulez m'ajouter sur ICQ, c'est 1-2-3-8-2-5-4-4-8. je ne sais pas pourquoi je me rappelle encore de ce numéro-là, mais je m'en rappelle.
Ben, tu sais, il y a des chiffres comme ça. Moi, je me souviens très bien de la ligne 4-8-15-16-23-42, execute. De Lost. C'est comme ça. Il y a des fois, ça nous rentre dans la tête. Voilà. Et allez, je finis mon anecdote. J'étais en Angleterre et j'avais tous mes amis qui étaient en train de créer un compte Messenger. Mm. J'étais en colonie de vacances. Et il y en a un au milieu qui me dit « Oh non, moi, j'utilise pas Messenger. J'utilise ICQ. Tu vas voir, c'est vachement bien. » Et en fait, c'était pourri. C'est pas que c'était pourri, c'est que c'était dépassé. Donc ça a été bien à son époque, c'est comme MySpace. Ça a été bien à son époque, mais voilà. Bon, sur ces paroles qui n'ont plus rien de trekkienne, merci beaucoup JP. Je te souhaite une vie très longue et prospère. Également aux auditeurs, une vie très longue et très prospère.
Prospère,
il s'appelle Prospère. Ça, c'est dans le... T'as reconnu la référence? Non, t'as pas...
Non,
c'est dans... alors, je sais pas comment il s'appelle en anglais, ce film. C'est dans Sacré Robin des Bois, un film de Mel Brooks.
Oh oui.
À la fin, ah, oui, Marianne doit se marier
Robin
avec
des Bois, héros en collant.
Robin des Bois, héros en collant. La bande en collant. J'adore ce film. Je vous le souhaite à tous. Regardez ce film. À très bientôt. On arrête le montage parce que c'est l'enregistrement parce que c'est devenu du gros n'importe quoi. À très bientôt. Bisous à toutes et à tous.
Bisous.
Star Trek pour les nuls.